au café de la mort.
Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Le mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit.
Avec Christian Hervault et Jean-Paul Souzède.
La mort. La mort.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue au Café de la Mort, où nous ne sommes pas morts, mais bien vivants, avec Jean-Paul Souzède.
Bonjour.
Comme habituellement, comme chaque mois, nous nous retrouvons pour parler de la mort. Et comme vous le savez, cela fait suite, ou ça va ensemble aussi avec le Café Mortel qui se situe rue Racine à l'instant T, qui a eu lieu d'ailleurs hier soir, pour tout vous dire. Pour ceux qui y étaient, c'était bien, je suppose.
Et tout à fait.
Donc voilà, donc peut-être que... Jean-Paul, est-ce que vous voulez commencer par nous en dire quelques mots, ou est-ce que... Nous rentrons directement dans
bon,
le vif du sujet.
On peut rentrer directement dans le vif du sujet.
D'accord. Voilà, donc nous nous sommes posés différentes questions, comme d'habitude, autour de ce thème de la mort, et qui va aussi avec des questions que, je pense, tout un chacun peut se poser. Notamment, comment est-ce qu'on parle de la mort d'une manière générale? Ou comment on n'en parle pas? Voilà, ça aussi, c'est une question. Nous l'avons déjà un petit peu évoqué le mois dernier. Et quel terme nous utilisons d'une manière générale? Qu'est-ce que ça dit de ce que nous vivons avec la mort? Ça fait un peu peur, bien sûr, hein, la mort. On y pense tous. Donc, de quoi est-ce que nous avons peur exactement? Voilà. Trois questions d'un coup, Jean-Paul Souzède.
C'est pas grave. La mort mérite encore plus de questions, d'ailleurs, puisque comme c'est une inconnue, on peut en parler tant que... Enfin, on n'en sait rien tant qu'on n'est pas dedans. Une fois qu'on est dedans et qu'on l'a vécu, on ne peut plus en parler puisqu'on n'est plus là. Donc, effectivement, ça ne peut que nous poser des questions régulièrement. Ce qui est étonnant, et on en parlait hier soir justement au Café Mortel avec à l'instant T, c'est de regarder comment on en parle et comment on nomme les choses. Et souvent, il y a beaucoup d'évitements, ou en tout cas des manières élégantes de ne pas blesser, parce qu'on a peur de blesser en parlant de la mort, en parlant d'un mort. J'avais un téléphone là avec un monsieur qui me racontait que je ne connaissais pas et qui me disait « Bah oui, ma fille a disparu dans les Caraïbes ». Et je me dis « Ah oui, donc il est en train de me dire vraisemblablement qu'elle était en bateau et qu'elle est morte dans un accident, mais qu'on ne l'a jamais retrouvée, donc elle a disparu, effectivement ». C'était sa manière à lui de parler de sa fille décédée et morte. D'ailleurs, pourquoi parle-t-on de décédé et pas de mort? C'est très curieux. On a plein de mots. On dit qu'il a disparu. On dit qu'il nous a quittés. Ah oui. Il y avait des témoignages hier soir très touchants et que j'ai aussi entendu dans des cabinets dans mon cabinet de thérapie autour de comment des enfants, on leur a raconté que leur grand-père était parti en voyage. Et puis, ils ont su 4 mois, parfois 4 ans, parfois plus encore, que finalement leur grand-père n'était pas parti en voyage, mais qu'il ne reviendrait plus, qu'il était décédé. Y compris des enfants pour qui ça a été très violent de s'entendre dire que papa est parti en voyage, et puis qui ont découvert, parce que des copains leur ont dit « Mais tu sais, mais ton père, il est mort », qui ont découvert que leur père ou leur mère étaient décédés, ça les met dans des grandes colères, ces enfants-là, qui disent « Mais vous m'avez trompé, vous m'avez menti, quoi. Je ne peux pas vous faire confiance parce que vous ne m'avez même pas dit que mon père ou ma mère est morte, alors que vous avez caché, vous avez essayé de me déguiser les choses, et c'est insupportable. » Donc c'est comment on a tellement de précautions pour en parler, sans en parler, et à quoi ça correspond, comme si ça venait pallier à certaines peurs ou certaines angoisses, comme s'il ne fallait pas nommer les choses, comme si nous avions un peu une pensée magique aussi de croire que parce qu'on parle de la mort, parce qu'on parle d'un mort, ça allait la provoquer ou ça allait convoquer la grande faucheuse qui tout à coup pourrait se rappeler à nous parce qu'on vient d'évoquer la mort et qu'elle pourrait tout à coup s'intéresser à nous et venir encore surprendre et happer des nouvelles personnes dans son grand travail de fauchage et de deuil. Donc voilà, nous sommes avec ça. Sans doute, ça correspond à notre angoisse existentielle, qui est qu'effectivement, on est face à une inconnue. quelque chose qui nous échappe et qu'en même temps fait partie de notre condition humaine. Dès le premier jour de notre vie, ben voilà, nous sommes mortels et nous sommes amenés toujours à nous approcher de notre mort, dont on ne sait pas jamais ni comment ni à quel moment elle surviendra.
Ça fait peur pour tout le monde, donc du coup c'est difficile d'en parler parce que ça nous rapproche nous-mêmes de la mort.
Oui,
c'est donc ça. C'est nos propres peurs que nous projetons dans la façon d'en parler. Dire disparaître, je ne sais pas trop bien ce que ça signifie, je ne sais pas si c'est mieux que d'être mort, de dire qu'on a disparu.
On a disparu, il nous a quittés. Ah bon ? Nous a quittés, c'est une expression, c'est élégant, mais on peut quitter aussi parce qu'on part en voyage, on peut quitter parce qu'on est fâché, on s'est séparé. Et voilà, quelles sont ces circonvolutions de langage que nous avons pour dire ce qu'on n'ose pas dire ? C'est très curieux, mais on est aux prises avec ça, en tous les cas. Et on peut regarder que dans notre vie sociale aussi, la mort est devenue très anonymisée. Les pompes funèbres ne sont plus en noir, elles sont en gris. On essaye de faire les choses un peu, j'allais dire, un peu rapidement. J'ai un ami qui vient de perdre sa femme. Sa femme est décédée, il ne l'a pas perdue, elle est décédée, elle est morte. Et il organise donc une incinération, et donc les cendres vont être répandues dans le jardin. Ce qui me surprend, je me dis, tiens, pourquoi on va les répandre dans le jardin ? Comme s'il ne fallait pas qu'il y ait un endroit où le mort réside, où on puisse... Comme s'il fallait le disperser dans la nature pour pas qu'il reste... Enfin, je ne sais pas très bien, j'entends que c'est à la fois une intention très louable de pouvoir dire, ben, elle va nourrir les fleurs, elle va être là dans le jardin au moment du printemps et tout au long de l'année, comme une sorte de mémoire vivante qui va être là dans mon espace privé. Et puis en même temps, c'est une manière de répandre à tout vent sans laisser une trace particulière ou du moins la trace elle est dispersée, la trace est dispersée.
Oui, mais elle est là. Mais elle est là, la trace.
Tout à fait,
elle est là. C'est ça qui est important pour cette personne, je suppose, parce que j'ai eu d'autres personnes qui ont fait ça aussi, dans un endroit particulier, dans un endroit de souvenir, dans un lieu que la personne aimait particulièrement, donc c'est un lieu de mémoire, quelque part, un hommage aussi, la personne qui aimait son jardin, qui aimait être tout le temps dans son jardin, eh ben, on va répandre ces cendres-là pour dire il vit à travers quelque chose. C'est une manière de dire qu'il vit encore à travers quelque chose qu'il aimait. Et ça, c'est un peu pareil si on se réfère à des attitudes ou à des façons de faire ou d'être d'une personne dans ce qu'elle nous a donné et que nous transmettons ou que nous faisons d'un peu de la même manière, parce qu'on nous l'a, cette personne nous l'a appris. Parce qu'il y a eu des personnes, des petits-enfants qui disaient mon grand-père m'a appris ça et ça, il aimait être avec moi en me parlant de ça. Et donc, il continue, il perpétue quelque chose pour lui-même, mais parce que ça lui fait du bien et ça perpétue quelque chose de la personne.
Oui, oui. Mais si c'est donc ça l'intention de la perpétuation, de prolonger une trace, pourquoi ne pas à ce moment-là la circonscrire dans un espace qui soit bien délimité. Je me souviens que ma mère, au moment de son décès, elle voulait qu'on répande ses cendres sur ses groseilliers. Et puis on lui a dit, alors ça, certainement pas. On ne va pas aller manger des groseilles qui ont été nourries par tes cendres. Ça, c'est morbide, quoi. Il y a quelque chose qui ne nous va pas, alors qu'elle aimait beaucoup ses groseilliers. Et je me dis, moi, je vois, mais je suis peut-être très conservateur et traditionnel, je mesure comment c'est important pour moi que les morts soient un endroit précis, qui leur soit consacré, qui leur soit dédié. Et je suis attaché pour ça au cimetière, je suis attaché aux urnes, parce que je pense que psychiquement, moi, j'ai besoin de savoir où se trouvent mes défunts dans ma culture occidentale, chrétienne. J'ai besoin de pouvoir aller leur parler, le cas échéant, même si je sais bien qu'ils ne sont pas là et que c'est un corps en décomposition. Mais psychiquement, j'ai besoin d'avoir, pas tout le temps, loin de là, à certains moments de ma vie, de savoir, oui, il est là, il est là. Et quand c'est répandu, ouais, il est un peu là et partout et nulle part. C'est ça qui me gêne, mais je dis ça dépend
oui, ça
vraiment.
Ça, c'est vous, Jean-Paul Souzet.
C'est moi.
Je
voilà.
pense que la personne qui l'a fait, pour elle, c'est plutôt réconfortant. Hein. C'est comme vous à un endroit précis, Cet endroit précis, c'est le jardin.
Tout à fait.
C'est pas mal non plus, comme souvenir, je pense. Hein, mais bon, moi, je n'ai pas dit que je ferais forcément ça, mais voilà. Par contre, au pied d'un arbre, ou pour faire pousser un arbre, moi, ça me parle. La beauté de l'arbre, quelque chose qui va fleurir, oui. Qui va embellir
le
paysage, ou même le cimetière lui-même, par exemple.
Pourquoi pas?
Je trouve que c'est une correspondance avec la nature, avec les renouvellements des choses. Je pense que ça peut être... c'est assez beau, je trouve. Et puis, peut-être, ça peut faire du bien. Moi, je dis que si ça fait du bien à la personne et non du mal, il faut... Voilà, dans la discussion avec un parent ou un proche ou des amis sur ce sujet-là, il me semble que ce qui est bon de voir, c'est ce qui est... Est-ce qu'ils en retirent eux-mêmes et que est-ce que ça fait du bien ou du mal?
Comment ça les nourrit? Comment ça les apaise?
Voilà.
En ce moment-là.
Peut-être.
Mais cet échange, c'était par rapport aussi au langage et comment on a des gestes et des signes, on a des verbes, on a des mots, on a des gestes et des signes qui sont pas banalisés parce que ça serait pas très juste, mais en tout cas qui parfois évite de nommer clairement les choses. Et c'était ça ma réflexion, je me dis, en dispersant, c'est une manière de fondre dans quelque chose qui est un peu général, un peu... Voilà, c'est dispersé. C'est dispersé. Quand on dit dispersé, c'est là et c'est pas là. C'est ça qui m'interroge, simplement.
Mm-mm. D'accord.
Voilà, et puis je trouve que c'est intéressant après de se dire, mais tiens, et qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que nous disons dans une situation où des amis sont dans le deuil? Des parents sont dans le deuil. Quels sont les mots qu'on va utiliser? Alors souvent on dit ah ben mes condoléances, mais condoléances, c'est étymologiquement c'est être dans la souffrance avec toi. Cum dolere, c'est souffrir avec. Mais le mot paraît un peu désuet, un peu surfait aussi. Donc je trouve que c'est intéressant de se dire mais qu'est-ce que je dis à ces gens qui peinent, qui sont tristes, qui pleurent, qui sont dans la blessure, parfois dans le ressentiment. Et je trouve que c'est pas simple. Qu'est-ce que j'écris si je ne suis pas présent au moment de l'enterrement? Qu'est-ce que je mets sur le livre de condoléances à la sortie de l'église ou du cimetière quand il y a un livre? Et je trouve que c'est intéressant de s'interroger parce que souvent nous sommes démunis. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment être. Et peut-être que l'essentiel, c'est peut-être juste quand on a la possibilité d'être présent physiquement, c'est peut-être juste de prendre la personne dans les bras, peut-être juste d'être là. Voilà, je partage ta peine, je suis là juste avec toi. Mais c'est touchant de regarder comment dans notre culture, en tous les cas occidentale, me semble-t-il, on n'a pas de mots, on est très dépourvu de mots. Et parfois, il n'y a pas de mots d'ailleurs, tellement la mort est violente, surprenante, incongrue, que sauf à dire, c'est insupportable. Mais au moins pouvoir nommer ça. Voilà, donc hier soir, on s'interrogeait autour de toutes ces expressions de langage. Quand on parle de la mort, quand on parle du mort, quand on parle à quelqu'un qui est dans le deuil, quand on cherche comment on va donner des signes des personnes qui sont endeuillées, et comment aussi on peut parler du mort. C'est encore un autre aspect de qu'est-ce que je dis du mort? Comment je l'honore? Parfois, il y a des morts dont on n'a pas tellement envie de les honorer, tellement ils ont été insupportables ou douloureux, difficiles. Qu'est-ce que j'ai envie d'en dire? Il y a souvent dans des cérémonies, qu'elles soient d'ailleurs religieuses ou laïques, il y a parfois des panégyriques qui sont faits. On a l'impression d'avoir des statues du commandeur, des gens tellement glorieux, merveilleux, qu'on se dit « Ah bon, je ne le connaissais pas comme ça, je suis étonné qu'on en parle de cette façon-là, c'est pas ce que j'avais connu d'elle ou de lui ». Et là aussi, je trouve qu'on est parfois maladroit à ne pas oser nommer ce qui nous a réjouis, en quoi nous sommes reconnaissants de ce qui a existé de cette personne, ce qu'elle nous a donné, comment elle a aimé, mais aussi parfois de pouvoir aussi nommer comment ça a été difficile.
Moi, je trouve que c'est assez souvent quand même que les personnes qui osent parler à un enterrement... C'est parce qu'elles ont quelque chose dans leur cœur à dire, à transmettre. Et qu'elles ont envie d'honorer la personne qu'elles ont aimée. Après, il y a des personnes qui peuvent peut-être être un peu plus loin, ce sont des amis ou des personnes avec qui on a travaillé, par exemple. Là, ça peut être un peu plus quelque chose d'un peu officiel, pour peu que la personne ait été connue aussi. Donc du coup, voilà, on essaye d'ajuster. Dans ce que j'ai vu, en tout cas, moi, dans des enterrements ou entendus, les personnes essayent d'ajuster leur amitié, par exemple, à la personne avec laquelle elles ont travaillé, qui a fait un réel travail, qui leur a paru honorable et bon pour les autres. Donc, c'est ça qu'ils essayent de dire. Et donc, c'est pour ça que ça paraît peut-être à certains moments... J'ai entendu quelquefois des personnes qui disent « Oh, mais c'est très hypocrite parce qu'on dit que du bien. » Mais ce jour-là, on n'a pas envie de dire du mal de quelqu'un qu'on a aimé. On est dans la peine et on n'a pas forcément envie, ce jour-là en tout cas, de décortiquer ou de faire toute la liste des bonnes ou des mauvaises choses que la personne a fait. D'abord, ça serait très malvenu. Et puis, c'est encombrant, ça ne soulage personne de faire ça. Ça ne console pas les endeuillés. Donc, du coup, moi, je comprends qu'on puisse vouloir faire quelque chose qui fasse du bien aussi à la communauté. Mmh. Quand les enfants parlent, quand ils osent parler, par exemple, de leur père qui est décédé, d'une manière presque un peu même spectaculaire. J'avais des amis, j'ai un ami qui est décédé, qui faisait du théâtre, et ses enfants, il y a un des enfants aussi qui faisait aussi un peu du théâtre. Donc il a fait quelque chose d'assez un peu spectaculaire comme ça, mais parce que ça correspondait à son père. Il a dit quelque chose, il a un peu déclamé quelque chose. Mais ça, tout le monde... dans l'Assemblée, l'a très bien compris, hein, parce qu'on connaissait le personnage en question qui était décédé et qu'on aimait aussi un peu dans son extravagance, là, et on nommait quelque chose de lui de cette façon-là. Donc, c'est vrai qu'il y a différentes façons de parler du mort. Alors, je crois qu'il y a une différence, il me semble, entre le temps de l'enterrement ou à la crémation, au crématorium, et le temps entre soi, entre amis, en famille. Ça, c'est complètement différent, à mon avis. On peut même dire des anecdotes à certains moments, presque drôles, ou presque se moquer un petit peu de la personne. C'est autre chose. Il y a deux temps, à mon avis, qui ne se correspondent pas forcément.
Et en même temps, dans les familles que j'ai pu accompagner dans des deuils, dans des processus de services funèbres, je vois qu'il y a des gens qui disent « Ah non, moi, je ne dirai rien ». Et ce n'est pas par pudeur, ce n'est pas par timidité, c'est plutôt qu'il y a un tel ressentiment qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir dire quelque chose à ce moment-là. Et j'ai toujours été affecté et triste de sentir que même dans ce moment où la personne supposée être aimée décède, rien ne peut être dit. Enfin, moi, je crois beaucoup que le service funèbre, et que ce soit à nouveau au cimetière, dans une église, dans une cérémonie laïque ou religieuse, c'est un moment justement où on peut avoir une parole publique, une parole en famille, avec les amis, sur qu'est-ce qu'on quitte, de dire au revoir, de dire adieu. Et c'est vraiment précieux comme moment. Et je vois que certaines familles sont prolixes et généreuses dans les termes pour remercier, pour apprécier. Mais je vois qu'il y a aussi des personnes parfois qui ont vécu des violences, qui ont vécu des sévices, et parfois des histoires d'inceste. Ça continue à ne pas se dire. Faut-il le dire à ce moment-là? C'est pas sûr. Je suis juste soucieux de comment dire, ça me touche que dans ces moments où on pourrait être apaisé parce que le défunt est là et que ça pourrait être un moment paisible même malgré le chagrin, les choses se disent à nouveau pas et voilà.
Mais je crois que le silence dit beaucoup. Je pense que le silence dit beaucoup et que quelquefois il vaut mieux.
Et peut-être,
pour ma part, je pense qu'il vaut mieux dans des choses comme ça. Dire publiquement des choses dramatiques, là, c'est vraiment trop à ce moment-là. c'est vraiment trop pour tout le monde. Enfin, à mon avis, hein, moi, je pense que ça, c'est mon ressenti personnel, que là, moi, je n'oublie jamais.
Oui, moi
personnellement,
non
plus.
Moi,
quand j'ai un entretien avec la famille, je dis que ce n'est pas obligatoire de parler. Ça n'a pas été fait pour mes parents. Personne d'entre nous n'a voulu dire quelque chose parce que c'était trop compliqué dans nos vies. Et puis c'était trop difficile d'une manière affective. Voilà, ça remue trop. Et quand les personnes me disent, moi, je ne pourrais pas parler, c'est pas forcément parce qu'elles ont vécu des choses
difficiles,
trop dures, mais c'est parce qu'elles n'y arrivent pas, c'est tout. Et donc, quelquefois, on essaye que ça soit un ami ou un petit enfant qui dit quelques mots, quelque chose, à des petits-enfants, qui dit quelque chose. On va faire une pause musicale,
oui.
Ouf, avec tout ça. Et j'ai choisi une chanson de Jacques Brel, alors qui est très forte, je trouve, et qui est très belle. Il a une façon vraiment de parler de la mort aussi. Et ça s'appelle « J'arrive ». On va l'écouter. Et puis, nous revenons ensemble avec Jean-Paul Souzel pour continuer notre émission, encore un moment autour de la mort.
De chrysanthème en chrysanthème, nos amitiés sont en partance. De chrysanthème en chrysanthème, la mort potence nos dulcinées. De chrysanthème en chrysanthème, les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. De chrysanthème en chrysanthème, les hommes pleurent, les femmes pleuvent. J'arrive, j'arrive. J'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été, jusqu'au printemps, jusqu'à demain. J'arrive, j'arrive. Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois voir si le fleuve est encore fleuve, voir si le port est encore port, m'y voir encore. J'arrive, j'arrive. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi déjà? Et où aller? J'arrive, bien sûr, j'arrive. J'ai jamais rien fait d'autre qu'arriver. De chrysanthème en chrysanthème, à chaque fois plus solitaire. De chrysanthème en chrysanthème, à chaque fois surnuméraire. J'arrive, j'arrive. Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois prendre un amour comme on prend le train, pour plus être seul, pour être ailleurs, pour être bien. J'arrive, j'arrive. Mais qu'est-ce que que j'aurais bien aimé encore une fois remplir d'étoiles un corps qui tremble et tomber mort, brûlé d'amour, le cœur en cendres. J'arrive, j'arrive, c'est même pas toi qui en avance, c'est déjà moi qui suis en retard. J'arrive, bien sûr j'arrive, mais je n'ai jamais rien fait d'autre qu'arriver.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus, vous écoutez le 103.2. Vous pouvez nous écouter en DAB+, ou alors aller sur notre site radioallianceplus.fr pour écouter nos podcasts. Et ce podcast en particulier, si vous voulez, ou tous les podcasts avec Jean-Paul Sauzet et moi. Voilà, et il y a de quoi faire sur notre site. Alors, nous allons bientôt terminer notre émission pour cette fois-ci. Et nous avons beaucoup parlé de comment parler du mort à l'enterrement, parler des rituels. Peut-être la prochaine fois, nous pourrions développer un peu encore cette question des différents rituels.
Bien sûr.
Comment ça se passe à l'enterrement, ça se passe au cimetière, quelles sont les questions qui peuvent se poser à l'incinération, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit, et puis le culte d'action de grâce, qu'est-ce que c'est aussi. Voilà. Donc, juste pour terminer, je voudrais revenir un petit peu sur la question avec les enfants. Comment parler aux enfants? Parce que dans les familles chrétiennes, catholiques, protestantes, quelquefois, on entend, peut-être moins maintenant, mais on a aussi entendu, non pas la question du voyage, mais il est au ciel.
Ah oui.
Voilà, ça c'est aussi une expression que peut-être vous avez entendue aussi,
terrible,
Jean-Paul Sauzet.
Oui, tout à fait.
Donc, comment répondre aux enfants, arriver à leur parler?
Ça dit bien le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, autour de, on a besoin de savoir où est le mort. Où est-ce qu'il est là maintenant? Et moi, je pose souvent la question avec des familles endeuillées en disant « Et où est-ce que vous pensez, et la personne défunte, elle est où? Où est-ce qu'elle est ?» Voilà. Et c'est intéressant de se dire, tiens, il y a cette expression commune de dire « il est au ciel ». Alors, ça fait partie de nos représentations, le ciel étant l'éternité, le royaume, je ne sais pas, le paradis, enfin, on y met un peu ce qu'on veut. Mais en tout cas, il y a un endroit où il est, comme notre Père qui est aux cieux, voilà. Donc, c'est une manière de localiser et je pense de nous rassurer dans nos représentations pour dire, bon, c'est pas errant, quoi. L'insupportable, c'est les âmes errantes. Et d'ailleurs, il y a toute une mythologie autour de cette notion-là, de l'âme errante, de l'âme qui se promène, qui pourrait s'accrocher à on ne sait pas à qui, on ne sait pas comment, des fantômes qui sont aussi un peu dans une forme de vaporeuse, d'errance, de promenade, qui peuvent venir s'introduire dans nos domiciles, dans nos chambres, enfin dans notre intimité. Et je crois qu'il y a besoin de se dire, mais cette personne qui a été tellement présente, tellement vivante, tellement charnelle, incarnée, et maintenant qu'elle est là, inerte, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'il en reste? Où est-ce qu'elle est posée? Et je crois que ça repose la question de ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, autour de, est-ce qu'on disperse les cendres? Est-ce qu'on met dans une urne, dans une tombe? Il y a besoin d'avoir un espace, un endroit où je sais que mon mort est là. Et alors de dire aux enfants qu'il est au ciel, je trouve que si c'est expliqué en disant, il est parti, il n'est plus là, il n'est plus dans ce monde, il est mort, mais il est peut-être dans une autre dimension qui nous échappe. Alors dire ça à des enfants comme ça, c'est peut-être un peu énigmatique encore, Mais on ne sait pas, voilà. Il est peut-être là autour de nous, comme l'air, comme le sentiment d'aimer peut être là autour de nous sans que nécessairement on puisse le saisir et l'agripper. Oui, il est au ciel.
Oui, il y aura encore beaucoup de questions autour des enfants, notamment. Je vais juste terminer l'émission aujourd'hui en disant que les enfants, en général, ils ne se contentent pas de ce genre de choses. Non. Fort heureusement, ils posent d'autres questions. Et donc, la question des croyances, notamment, bah, nous y reviendrons aussi, Jean-Paul Sauzet, dans une autre émission. Parce que, pour l'heure, eh bien... C'est terminé pour aujourd'hui, déjà.
Déjà, voilà.
Merci Jean-Paul Sauzet.
Merci Christiane.
Et puis, nous disons juste que le prochain Café Mortel...
C'est le 20 janvier, puis 17 février, 17 mars, toujours à l'instant T, rue Racine, à Nîmes.
Voilà, eh bien, il n'y a plus qu'à venir nous rejoindre la prochaine fois. Au revoir, chers auditeurs et auditrices.
Au revoir.
La mort.